Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce jeudi 30 décembre. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, et au cours de cette émission, le journal, les sports, le journal de l'économie en Australie, et on parlera de musique également. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les grands titres de ce jeudi 30 décembre, Ghislaine Maxwell a été reconnue coupable de crimes sexuels et de trafic de jeunes filles mineures par un tribunal de New York. Le cabinet national se réunit aujourd'hui pour discuter des tests antigéniques rapides et de la définition des cas contacts étroits. La Britannique Ghislaine Maxwell pourrait être condamnée pour le reste de sa vie en prison après avoir été reconnue coupable de 5 chefs d'accusation sur 6 d'avoir attiré des adolescentes pour qu'elles soient agressées sexuellement par l'Américain, l'ex-financier Jeffrey Epstein. Le tribunal a entendu les témoignages de 4 femmes qui ont décrit avoir été maltraitées alors qu'elles étaient adolescentes durant les années 90 et au début des années 2000, dans les somptueuses demeures d'Epstein en Floride, à New York et au Nouveau-Mexique. Le jury a délibéré pendant 5 jours avant de déclarer Maxwell coupable de 5 des 6 chefs d'accusation. C'est sans doute l'une des condamnations les plus médiatisées d'une femme pour avoir activé un réseau de trafic sexuel. Lisa Bloom est l'avocate de 8 des victimes. Elle a déclaré à la BBC qu'il s'agissait d'un verdict extrêmement important.
I think this guilty verdict is immensely meaningful to sexual abuse victims everywhere, that no matter who you are, no matter what kinds of circles you traveled in, no matter how much money you have, no matter how many years have passed since the sexual abuse, justice is still possible.
Le coronavirus maintenant, et en Australie, le Premier ministre Scott Morrison a avancé la prochaine réunion du cabinet national à ce jeudi 30 décembre. Le médecin-chef fédéral, le professeur Paul Kelly, doit recommander une nouvelle définition du terme cas contact étroit lors de la réunion. Les dirigeants des États et des territoires du pays discuteront également de l'impact du variant Omicron et des longues files d'attente pour les tests PCR de COVID-19. Scott Morrison a déclaré que le Commonwealth avait déjà obtenu 4 millions de tests rapides, 6 autres millions arriveront très bientôt et 375 millions de dollars de fonds supplémentaires seront disponibles pour se procurer d'autres tests rapides et à rajouter au stock national.
The TGA has to be sure about the testing kits that it approves. We've already seen from some applicants that their products have been withdrawn in other jurisdictions. We're going to be careful about the tests, given we are even more reliant now on rat tests, which had been more a convenient testing tool up until now, that these rat tests have to have that authenticity, that reliability. They've got to meet the mark.
Le leader travailliste Anthony Albanese accuse le Premier ministre de faire de la politique avec le cabinet national plutôt que de travailler sur un ensemble cohérent des règles nationales pour faire face à la pandémie de COVID-19. Cette décision de ces cas contact étroit pourrait aider à ralentir le nombre de personnes forcées de se mettre en quarantaine préventive, à alléger la pression sur les sites de tests PCR et à aider les entreprises à rester ouvertes. Anthony Albanese déclare que cette décision aurait dû être prise il y a longtemps.
The reason for a lack of consistency in the rules is that the National Cabinet didn't determine enough consistency going through because the Prime Minister has been determined to play politics.
La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 12 226 nouveaux cas de coronavirus ce jeudi. Un décès a été signalé et il y a maintenant 746 personnes à l'hôpital, dont 63 en soins intensifs. Cela survient alors que le chef de la santé publique de l'État, Kerry Chant, avertit qu'il y a probablement plus de maladies dans la communauté que les chiffres ne le reflètent. Pendant ce temps, le Victoria a également connu une augmentation du nombre de cas à 5137 nouvelles infections enregistrées et 13 décès. Au Queensland, il y a 2222 nouveaux cas de COVID-19 et en Tasmanie, 92 nouveaux cas ont été signalés. L'Australie méridionale n'effectuera plus de tests PCR pour les personnes quittant l'État pour se rendre ailleurs dans le pays. Le chef de l'État, Stephen Marshall, affirme que le changement est nécessaire pour gérer le système de santé.
It's highly transmissible. The severity of the symptoms are lower, but if we have everybody hitting the health system at exactly the same time, it will overwhelm our health system in Australia. And that's why we're on the front foot in South Australia. We've got change conditions, and so our plan has to change.
Le Victoria a obtenu 34 millions de tests antigéniques rapides qui seront distribués gratuitement d'ici la fin de janvier. Le ministre de la Santé de l'État, Martin Foley, fait pression en faveur d'une approche nationale des tests rapides au lieu que cela incombe aux États. Selon lui, les tests antigéniques devraient être gratuits et largement disponibles.
We've secured an order for more than 34 million tests to be delivered by the end of January. As part of that program, rapid antigen tests should be free. They should be free, and we will be making them free. Rapid antigen tests should be widely available, and we will be making them widely available. And that will be part of a process that has fallen to the states. We would much prefer to have a national approach.
Le chef de Nouvelle-Galles du Sud a salué la décision du Queensland d'assouplir les règles à partir du 1er janvier concernant les tests PCR pour les personnes traversant la frontière. Les voyageurs devront remplir une déclaration en ligne indiquant qu'ils ont effectué un test rapide antigène et renvoyé un résultat négatif dans les 72 heures suivant le voyage. Et ce serait un acte criminel de faire une fausse déclaration. Le ministre fédéral de la Santé, Greg Hunt, a déclaré que les données de l'étranger suggèrent que Omicron est hautement transmissible mais moins dangereux que les autres variants. Le ministre a déclaré qu'une étude du Royaume-Uni a soutenu la recherche sud-africaine indiquant qu'il y a moins de probabilité d'hospitalisation mais uniquement pour ceux qui ont été vaccinés et qu'une troisième dose fournit également une protection nécessaire contre la gravité de l'infection.
Now there is clear, strong evidence that it is less severe. The latest reports overnight, which the Chief Medical Officer has just briefed the Prime Minister and myself on, indicate that looking at South Africa, the data is clear. Looking at what we're seeing in Australia, the data is clear. And looking at what we're seeing in the UK, both in England and in Scotland, the data is clear that this is less severe.
En Grande-Bretagne, le nombre de contaminations a grimpé à plus de 183 000 en 24 heures. Omicron représentant 90% des cas, plus de 10 000 personnes sont hospitalisées avec le Covid-19. Le pays n'a plus assez de tests antigéniques. Écoutez le Premier ministre Boris Johnson.
I think everybody should enjoy New Year, but in a...
Je pense que tout le monde doit profiter du réveillon, mais il faut rester prudent et raisonnable. Faites un test, aérez, pensez aux autres, mais par-dessus tout, faites votre dose de rappel. Quand on regarde les données, on voit que les contaminations augmentent. Nous avons beaucoup de cas du variant Omicron. Mais d'un autre côté, d'autres données nous montrent aussi la forme légère de ce variant pour les malades. Et on voit à chaque fois un effet très clair pour ceux qui ont reçu ces vaccins. Donc faites votre dose de rappel, cela fait une différence énorme. D'après plusieurs études que j'ai consultées, 90% des patients en soins intensifs n'ont pas reçu leur dose de rappel. Donc pensez au risque que vous courez pour votre santé si vous ne le faites pas.
To get a booster. Les États-Unis ont réduit de moitié le temps d'isolement recommandé pour les personnes diagnostiquées avec le COVID-19, avec l'impact sur le personnel dans les secteurs tels que la santé, l'aviation, les Centers for Disease Control and Prevention affirment avoir été motivés par la science en décidant de réduire de moitié le temps d'isolement recommandé de 10 à 5 jours. Le docteur Anthony Fauci, conseiller médical en chef du président américain, a déclaré que c'était une décision très prudente.
The reason is that with the sheer volume of new cases that we are having and that we expect to continue with Omicron, one of the things we want to be careful of is that we don't have so many people out. I mean, obviously if you have symptoms you should not be out, but if you are asymptomatic and you are infected, we want to get people back to the jobs, particularly those with essential jobs, to keep our society running smoothly.
Plus de 208 000 nouveaux cas de COVID-19 enregistrés dans les dernières 24 heures sur le territoire français. Les tests antigéniques de dépistage sont moins sensibles aux variants Omicron qu'aux variants précédents. Et dans une pharmacie au sud de Paris, les tests antigéniques ont toujours la cote. Écoutez ce reportage de Stéphane Duguay pour Radio France Internationale.
La queue pour faire un test antigénique s'étend jusqu'à la porte d'entrée de la pharmacie. Elder Pires passe les vacances à Paris avec ses deux petites filles. Avant de rentrer chez eux en Suisse, tout le monde a droit à son écouvillon dans le nez. Il a choisi le test antigénique pour deux raisons.
Il est moins cher. Si je peux économiser là-dessus, ben je le fais. C'est aussi plus rapide. Les résultats, on les reçoit au bout de 15 minutes, tandis que les PCR, je crois que c'est 24 à 48 heures.
Mais attention, d'après l'Agence américaine du médicament, ce type de test détecte plus difficilement le variant Omicron. Il y a un risque d'être faux négatif. De manière générale, le test PCR est plus fiable que le test antigénique, comme l'explique le directeur de la pharmacie, Hervé Zibi.
On perçoit la charge virale un peu plus tardivement que le PCR. Et quand quelqu'un vient de se faire contaminer, il peut être négatif à l'antigénique et positif au PCR. Mais il faut savoir que le résultat de l'antigénique, c'est un instant T. Si on a des symptômes qui arrivent quelques heures après avoir fait le test antigénique, il faut se protéger, mettre des masques ou s'isoler. C'est la prudence qui prévaut, hein, quoi qu'il arrive. Hein.
En cas de doute, mieux vaut faire un test PCR, plus efficace pour détecter Omicron. Selon les scientifiques, le nouveau variant est responsable de l'explosion du nombre de cas de COVID-19 en France.
Le chef de l'Organisation mondiale de la santé se dit préoccupé par la combinaison des variants Omicron et Delta pour produire, je cite, un tsunami de cas, mais il garde l'espoir que 2022 sera l'année où le monde mettra la pandémie derrière lui. Le chef de l'OMS, le docteur Tedros Ghebreyesus, a également accusé les pays riches d'exacerber la pandémie, arguant que leur populisme, nationalisme étroit et accumulation d'outils de santé avaient sapé l'égalité et créé des conditions idéales pour l'émergence de nouveaux variants du virus.
I'm highly concerned that Omicron, being more transmissible, circulating at the same time as Delta, is leading to a tsunami of cases. I call on leaders of rich countries and manufacturers to learn the lessons of Alpha, Beta, Gamma, Delta, and now Omicron, and work together to reach the 70% vaccination coverage. This is the time to rise above short-term nationalism and protect populations and economies against future variants by ending global vaccine inequity.
L'Inde se bat pour changer les attitudes envers le port de masque et la vaccination alors que le nombre de Covid monte en flèche à travers le pays. Jusqu'à présent, l'Inde a détecté 717 cas de Omicron, incitant les autorités à introduire des restrictions de voyage, un dépistage plus strict dans les aéroports et à diffuser des avertissements de santé publique. L'opinion est divisée entre ceux qui ne croient pas que le virus existe et d'autres qui craignent une vague comme celle du début de l'année qui a fait des centaines de milliers de morts. L'expert en santé publique Chandrakant Laharia a déclaré que les choses allaient, il espère, dans la bonne direction.
While India is showing some indication of renewed awareness and attention to respond to Omicron variant, there is attention on increasing vaccination coverage and point of entry testing. But as far as COVID appropriate behavior is concerned, there is a lot of room or space for improvement.
En Australie à nouveau, et les habitants de Darwin ont été réveillés ce matin par un séisme de magnitude 7,3 qui a frappé l'Indonésie dans la nuit. Le séisme a frappé le nord du Timor-Leste dans les îles Barat Daya, dans le sud-est de l'Asie, vers 5h25 ce matin. Le bureau de la météo affirme qu'il n'y a aucune menace de tsunami pour l'Australie ou les îles au nord du pays. On passe à la météo pour ce jeudi en Australie. À Perth, il fera 31 degrés. Adélaïde, 36 degrés. Melbourne, 33. Hobart, 25. Canberra, 29. Sydney, 27. Brisbane, 27 également. Cairns, 31. Darwin, 34. Et à Alice Springs, maximal de 38 degrés. Un rappel des grands titres de ce jeudi 30 décembre. Ghislaine Maxwell a été reconnue coupable de crimes sexuels par un tribunal de New York. Le cabinet national se réunit aujourd'hui pour discuter des tests antigéniques et la définition des cas contacts étroits. Fin du journal et merci de rester avec nous.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord un retour sur la course nautique Sydney-Hobart avec Black Jack qui remporte l'édition de 2021. On écoute le skipper Mark Bradford.
Yeah, it was tough in the beginning. The first 30 hours was pretty rugged and then it lightened out. But yeah, great to get the win. Pete and I have been working on this for 14 years. Yeah, 14 years, so it means a lot. We had a tough race with both the other boats. We dropped Scallywag near the end for a bit, but she came back, and then Law Connect was right there the whole way. They led us for a bit, but we clawed it back at the end, and when it gets light, this boat's so special, so yeah.
Un mot de cricket, les Ashes, le quatrième test match, ce sera à Sydney à partir du 1er janvier. Mais mardi, après la victoire australienne, c'est Scott Boland, un sportif d'origine aborigène, qui a été nommé le meilleur joueur de ce troisième test match. On l'écoute.
Obviously, coming here today, I thought we had a good chance of winning, but obviously didn't think it was going to happen that quickly. I sort of, yeah, obviously thought it was going to be really tough. It's a big step up from anything else I've played before, so I was hoping to make a little bit of an impact. There was about 17 of us went away a couple of years ago to commemorate the tour from 1868. We got to learn so much about that tour and what went on, and I think, well, obviously my family would be very proud, and I'm very proud to win this award.
On passe au tennis pour vous dire que l'Autrichien Dominic Thiem ne viendra pas jouer à l'Open d'Australie. Il se remet toujours de sa blessure à son poignet droit. Et puis Novak Djokovic ne viendra pas pour jouer le tournoi de l'ATP à Sydney. Mais il a été nommé champion des champions par le journal L'Équipe, Eric Mamrut, pour RFI.
Le 11 juillet à Londres, Novak Djokovic est au sommet de sa gloire. En battant Matteo Berrettini en finale, le Serbe décroche non seulement son 6e Wimbledon personnel, mais aussi et surtout le 20e trophée du Grand Chelem de sa carrière. Lui, l'éternel chasseur de Roger Federer et Rafael Nadal, égalait enfin les deux légendes au palmarès avec une 20e couronne. Le 11 juillet, apogée d'une année quasi parfaite pour Novak Djokovic, vainqueur en janvier de l'Open d'Australie et en juin de Roland-Garros en battant Rafael Nadal au passage. Australie, Roland-Garros, Wimbledon, ne manquait donc plus aux Serbes que l'US Open pour réaliser une incroyable passe de 4, le grand chelem calendaire, inédit depuis 1969 et l'exploit de l'Australien Rod Laver. Novak Djokovic, qui pouvait même alors rêver à devenir le premier homme, a signé un exceptionnel grand chelem doré s'il y ajoutait l'or olympique au mois d'août à Tokyo. Mais l'or s'est transformé en plomb. Écrasé par la pression, le numéro 1 mondial a complètement craqué durant l'été. En demi-finale des Jeux Olympiques contre l'Allemand Alexander Zverev et en finale de l'US Open où, méconnaissable, il a fini en larmes après avoir été surclassé par le Russe Daniil Medvedev. Une double occasion de manquer, de dépasser cette fois ses éternels rivaux Federer et Nadal. Il en aura bien d'autres néanmoins puisque malgré ses 34 ans, Novak Djokovic se voit bien jouer au tennis quelques années encore.
Et puis un mot de cyclisme pour vous dire que Julien Alaphilippe est le champion des champions de France, comme nous l'explique Thomas de Saint-Léger pour RFI.
Du huis clos d'Imola à la ferveur houblonnée de Louvain, le décor a bien changé et Julien Alaphilippe sent vite que le climat local lui est plutôt hostile. Aux Français, on préfère ici son dauphin de 2020, un enfant des Flandres, bien sûr. Le glouton Wout Van Aert, irrésistible depuis le début de saison, tellement favori qu'on trinque avant l'heure à sa victoire. Roi des Belges contre roi du monde, 268 km, un parcours hérissé de nombreuses côtes, ça promet. Et pour défendre son maillot, Alaphilippe va choisir d'attaquer sur les terres de ses rivaux. Avec ses précieux lieutenants, Cosnefroy, Madouas, Sénéchal, le Français secoue une première fois la course. Loin de l'arrivée, suivront de nouvelles estocades pour éparpiller le peloton. Avant l'attaque décisive, dans l'une des dernières difficultés du parcours, à moins de 20 km du but, Julien Alaphilippe se dresse sur ses pédales, fente une foule de Flandriens éméchés et part seul vers un deuxième arc-en-ciel. La concurrence est dans les cordes, scotché, sonné. À 29 ans, le coureur de Saint-Amand-Montrond entre un peu plus dans la légende. Premier Français, double champion du monde de cyclisme sur route. Plus très loin du club des 5, Merckx, Sagan, Binda, Fréré, Van Stenbergen, les seuls à compter 3 couronnes mondiales.
Et chez les dames, c'est la judokate Clarisse Abeignanou qui est la championne des championnes de France. Et puis on parle de cyclisme toujours avec le mondial de 2025 qui aura lieu au Rwanda. Laure Broulard, RFI.
L'annonce de l'UCI n'a surpris personne. Kigali faisait déjà figure de favori depuis des mois face à Tanger au Maroc, seule autre ville en lice pour cette première édition sur le continent africain. Le dossier rwandais pouvait en effet se targuer de plusieurs atouts de taille, une topographie vallonnée permettant des épreuves variées et difficiles, mais aussi et surtout sa course nationale, le Tour du Rwanda. Lancé à la fin des années 80 comme un rendez-vous amateur, la course s'est professionnalisée et internationalisée à la faveur d'une politique volontariste du président Paul Kagame qui a fait du sport un outil de soft power. Aujourd'hui, le Tour du Rwanda est connu pour sa bonne organisation et son public enthousiaste et il attire de grandes équipes. À Kigali, on espère donc que les mondiaux permettront de donner un nouveau coup d'accélérateur au développement du cyclisme dans le pays. Reste à savoir si les Rwandais réussiront à se distinguer en 2025. La Fédération s'attelle en tout cas à former une nouvelle génération de coureurs pour ce qui sera le plus grand événement jamais organisé dans le pays.
Un mot de ski pour vous dire que la Française Tessa Worley a remporté le slalom géant à Lienz. On écoute le reportage de Christophe Diremzian pour RFI.
Championne du monde de géant a signé sa première victoire de la saison de Coupe du Monde à Linz en Autriche. Elle a profité de l'absence forcée de l'Américaine Michaela Schifrin et de la Suissesse Lara Gut-Berami, toutes deux positives au Covid-19, pour s'imposer devant la Slovaque Petra Vlova et la Suédoise Sarah Hector. La skieuse du Grand Bornand remporte la 15e course de sa carrière en ayant eu de très bonnes sensations.
ma course aujourd'hui était vraiment super, je me suis vraiment éclatée, je me sentais très bien sur mes skis, je sens que mon ski est en place et je peux me faire confiance et je peux vraiment être à l'engagement et c'est ce qu'il faut pour pouvoir gagner des courses et aujourd'hui je suis juste très très heureuse que ce soit la victoire. Je compte pas forcément les victoires, aujourd'hui je suis juste très heureuse de continuer à gagner, c'est vrai que ça fait quelques années maintenant et je sens que je suis toujours en forme et que je skie toujours au niveau, donc ça c'est très très satisfaisant.
Tessa Worley qui sera de retour sur le circuit le 8 janvier à Maribor en Slovénie. Chez les hommes, c'était la descente de Bormio en Italie qui était au programme. Victoire à domicile de Dominique Paris devant deux Suisses, Marco Odermatt et Nils Hintermann.
Et maintenant, on passe au foot avec quelques nouvelles. En bref, avec Clémentine Pavlovski et Thomas de Saint-Léger pour RFI.
Et le compteur Covid s'emballe en France, Thomas, avec plus de 200 000 nouveaux cas annoncés aujourd'hui. Et les clubs de foot sont aussi touchés.
Embêtant à l'heure de la reprise, après cette courte trêve hivernale, 5 joueurs seraient ainsi concernés à Lorient, 7 à Lyon, encore plus à Angers, même si le nombre n'est pas précisé, de quoi sans doute perturber le calendrier de reprise.
Oui, d'autant que de nombreux clubs français seront aussi privés pour les prochaines semaines de leurs internationaux africains sélectionnés pour la CAN. À 11 jours du début de la compétition, l'Égypte vient d'ailleurs de publier sa liste de joueurs retenus.
Avec sans surprise Mohamed Salah de Liverpool en tête d'affiche, El Neni, le milieu d'Arsenal, est là lui aussi. Un peu plus tôt avant l'Égypte, le Zimbabwe avait également communiqué son groupe. Y figure Tino Kadewere, le Lyonnais, mais pas Marshall Mounetsi, le Rémois, forfait sur blessure.
Et puis les clubs anglais et français laisseront partir les joueurs d'origine africaine le 3 janvier pour qu'ils puissent participer à la CAN de 2022. On écoute Cédric de Oliveira pour RFI.
C'est une décision prise à contre-cœur, mais elle aura le mérite d'apaiser les tensions. Dans un courrier adressé par la FIFA au Forum des Ligues Mondiales hier, il est écrit que la CAF permet à des clubs européens de conserver leurs joueurs jusqu'au 3 janvier dans certaines circonstances. Une dérogation valable pour ceux qui sont concernés par des matchs officiels jusqu'à cette date. Les membres de la Première Ligue notamment peuvent donc souffler. Les 40 internationaux qui devaient initialement rejoindre leur sélection pourront disputer les deux journées de championnat prévues dans les prochains jours. Une victoire pour ces clubs après les multiples pressions exercées depuis plusieurs semaines autour de la CAN. Après avoir tenu bon et maintenu la compétition, la CAF fait donc une ultime concession pour mettre fin au bras de fer. Mais la préparation des 24 pays engagés va être forcément perturbée. Pour la plupart déjà réunis ou presque, les sélections vont être privées de plusieurs joueurs, parfois majeurs. Certains, à l'image de Sadio Mané et Riyad Mahrez, n'auront peut-être disputé aucun match de préparation avant de fouler les pelouses camerounaises.
Voilà pour le journal des sports de ce jeudi. Vous écoutez Radio SBS, le programme en français.
Bien, comme chaque semaine, on retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas.
Oui, bonjour Jean-Noël.
On parle de la dette du gouvernement australien qui est plus que les autres économies des pays développés depuis le début de ce siècle.
Oui, tout à fait. Il a doublé depuis 20 ans. Depuis les 20 ans, depuis 2000. Et en fait, on dirait que l'Australie va devoir faire face à des budgets en déficit pendant encore au moins 10 ans. Donc, c'est une analyse par le Fonds monétaire. Et on voit là que la dette du gouvernement fédéral australien a grandi par 221% depuis l'an 2000. Donc ça fait 44,1% du produit intérieur brut du pays, ce qui est le plus grand pourcentage depuis 1964, quand Robert Menzies était le premier ministre. Et en fait, l'Australie, c'est le seul pays parmi les 20 plus grandes économies du monde où on a vu que la dette du gouvernement est montée par plus de 200% pendant cette période. Une période dramatique quand même, avec la crise financière, la pandémie, etc. Mais c'est sûr que il y a d'autres pays où la dette du gouvernement est montée. Aux États-Unis, par 188%, en Angleterre, 185%, la Corée du Sud, 174%. Il y a d'autres pays où la dette est tombée. La Suisse, tombée par 40%. En Indonésie, une baisse de 55%. En Turquie, baissée par 3%. Mais ici, la dette du gouvernement va finir cette année-là, dans quelques jours, à 855 milliards de dollars. Et encore, ça va rajouter au moins 60 milliards dans les 6 mois à venir. Donc, on pense que la dette va atteindre 1,2 trillion de dollars en 2024-25 et que le budget va rester en déficit jusqu'à 2031-32. Donc, pas terrible, mais le trésorier Josh Frydenberg, lui, il a dit que oui, c'est sûr que le gouvernement avait dépensé beaucoup d'argent pour confronter l'impact de Covid-19, mais que en faisant ça, l'économie maintenant est bien placée pour l'année à venir, 2022. Il dit qu'on peut avoir confiance, on peut avoir de l'espoir, qu'on est un des pays avec un des plus hauts taux de vaccination au monde et une économie en bonne santé. Donc, les Australiens peuvent être fiers de ça. Mais il y a l'économiste Stephen Kokoulis, et lui dit que bon, n'importe quel parti qui va gagner les élections fédérales l'année prochaine va devoir gérer ce problème de la dette pendant encore au moins 10 ans. Et un des problèmes, c'est que le gouvernement, en ce moment, a limité combien on peut faire monter les impôts. Donc, ça va être difficile de payer pour certaines choses comme le National Disability Insurance Scheme et aussi les dépenses qui ont été promises sur la défense. Voilà M. Kokoulis qui dit que ça serait bien si on pouvait réduire un peu les dépenses, même un quart d'un pourcentage du produit intérieur brut. Il a dit que ça a amélioré la situation. Il dit que bon, pour le moment, c'est gérable la dette, mais si les taux d'intérêt montent un petit peu, ben là, ça va être assez cher pour l'Australie. Ça va devenir un peu plus difficile.
Et puis, on parle de ces centaines de milliers d'Australiens qui ont eu leur vol, leur voyage annulé pendant la pandémie, et ce n'est pas certain qu'ils vont être remboursés.
Non, c'est ça. Alors, il y a plein de gens. Tout le monde connaît des gens, ou peut-être que vous-même, on a acheté des billets d'avion pour aller faire des vols, des voyages dans des autres États ou ailleurs. Beaucoup de gens ont des crédits pour des vols. Mais ce n'est pas sûr qu'ils vont pouvoir utiliser ces crédits parce qu'il y en a qui ils vont bientôt expirer. Donc, c'est un peu compliqué. C'est la même chose pour des milliers d'Australiens, même des centaines de milliers d'Australiens. Et ce n'est pas facile à parler et discuter et négocier avec les lignes aériennes. Il y a des gens qui disent que c'est très compliqué, c'est très frustrant d'être remboursé ou de pouvoir même utiliser ces crédits. C'est un endroit, une partie de l'économie où il y a peu de régulation ou de droits pour protéger les consommateurs dans cette situation. C'est possible que des millions de dollars dépensés sur des vols pourraient maintenant être perdus. Et the Australian Competition and Consumer Commission a reçu des milliers de plaintes. En fait, plus de 26 000 plaintes en 2020, ce qui est beaucoup, beaucoup plus que l'année d'avant. Il y a des gens qui disent qu'on a besoin des lois et des règles plus strictes, plus claires, plus fortes pour protéger les consommateurs dans ce milieu. Peut-être une des choses qu'il faut regarder aussi, c'est le problème avec des dates d'expiration pour ces crédits de vol. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas souvent transférer les crédits à un autre membre de la famille ou à un ami. Et en plus, il y a certaines lignes aériennes qui imposent des nouveaux frais ou certaines restrictions pour utiliser les crédits. Donc, c'est assez compliqué. Par contre, Qantas, par exemple, dit que, en fait, eux, ils ont pu rembourser 80% de leurs clients. C'est sûr qu'il y a des cas qui sont plus compliqués que les autres. Et ils disent, appelez-nous et on va vous aider. Ils disent que c'est pas si compliqué que ça, qu'ils sont prêts à aider et ils font tout possible pour rendre la situation plus facile pour les clients et les voyageurs. Mais ça a pas donné énormément d'espoir à des gens qui sont encore assez frustrés et ils savent pas comment ils vont utiliser ces vols avec le Covid qui monte et qui monte un peu partout dans le pays en ce moment.
Voilà, merci pour cette analyse, Nicolas, et on vous souhaite une belle année en 2022.
Oui, très bonne année à vous aussi et à tous les auditeurs.
Merci, Nicolas. À bientôt.
Merci, à bientôt.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Et enfin, d'émission, un rappel des grands titres de ce jeudi 30 décembre. Ghislaine Maxwell a été reconnue coupable de crimes sexuels et de trafic de jeunes filles mineures par un tribunal de New York. Le cabinet national se réunit aujourd'hui pour discuter des tests antigéniques rapides et la définition des cas contacts étroits. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous, ce sera l'année prochaine, oui, ce sera l'année prochaine, le 1er janvier, samedi le 1er janvier 2022, en compagnie de notre collègue Marianne Murat. Et je vais vous laisser avec Alex Baupin, qui va nous interpréter Sorry Angel, une chanson rendue populaire par Serge Gainsbourg. À l'époque, très belle journée, bonne année en 2022 et à très bientôt.
C'est moi qui t'ai suicidé, mon amour. Je n'en valais pas la peine, tu sais. Sans moi, tu as décidé, un beau jour, décidé que tu t'en allais.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.